Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Épisode qui vous propose de retrouver Stéphane, à qui nous avons déjà tiré le portrait dans l'émission numéro 8 il y a 4 ans. Et en 4 ans, il s'en est passé des choses. Je n'en dis pas plus, je laisse l'intégralité des 25 prochaines minutes à Stéphane. Et il a des choses à vous, à nous dire. On se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. One, two, sound check, micro branché, ça rec, let's go.
La première fois qu'on s'est vu, ouais, c'était après, pendant, je crois, un peu le mouvement Nuit Debout, donc qui pour moi était une étape importante de mon parcours de vie, de mon parcours militant. Donc à l'époque, j'habitais Saillant, j'habite toujours Saillant. Voilà, j'y habitais avec ma famille, ma fille qui a maintenant 4 ans. Ben oui, suite à ce mouvement Nuit Debout, qui est encore, je le redis, hein, qui a vraiment été, qui m'a fait grandir, qui m'a fait rencontrer du monde, avec qui je suis encore en contact, hein, qui a, c'était vraiment quelque chose qui m'a construit. Et bah, j'ai continué, hein. Moi c'est sûr que j'ai une âme de militant, d'essayer de me battre contre les injustices dont je peux être témoin, de me battre pour l'égalité, pour l'émancipation. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé après Nuit Debout? Bah, y en a eu des choses, hein. C'est vrai qu'en 4 ans, bah, y a eu notamment la loi travail, où aussi j'ai été pas mal mobilisé. Y a eu le mouvement contre la réforme de la SNCF. Aussi, il y a eu pas mal de mobilisations dans la vallée, donc ça a continué à créer du lien. C'est vrai que, justement, il n'y a pas longtemps, avec des copains et des copines, on faisait un peu un retour en arrière et de se dire, bah, tiens, à quel moment on s'est connus, comment on s'est connus. Et c'est vrai que bah, toutes ces mobilisations bah, font qu'aujourd'hui, on se voit, on se fait confiance, on se mobilise, on organise des choses. On parlait tout à l'heure aussi en off de cette émission radio qu'on avait fait pendant le premier confinement, la radiation libre. Et c'est une émanation de tout ça, en fait. C'est une émanation de tous ces moments qu'on a pu partager, puis d'avoir envie d'aller plus loin que ça, et puis à la fois de se faire plaisir, d'interviewer des gens intéressants, et puis de partager ça, et puis de faire avancer sa vision politique, on va dire, de la société, et d'être... un peu plus fin là-dessus. Donc. Et puis, on arrive au mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est là aussi et quand même un temps important, donc 2018. Et on s'était effectivement vu au festival À part ça, tout va bien, début janvier, qui avait été mis en place suite à l'affaire qu'on a appelé les 4 de Valence. Ça fait partie des 4 de Valence. Donc, suite à une mobilisation qui avait eu lieu en décembre à Valence et qui avait amené 4 personnes à être placées en garde à vue, en détention préventive, et à être jugées pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pour resituer vite fait, hein, c'était au plateau des couleurs, une fin de manif, et là, une bagarre qui éclate. 2 personnes, je suis témoin de ça, qui frappent des gilets jaunes, des camarades. Et donc, bah moi, j'interviens pour défendre ces personnes qui se faisaient frapper. Et en fait, il s'est avéré que ces 2 personnes étaient des policiers en civil. Donc, premier jugement sur cette histoire en décembre. Donc, je suis condamné, on est tous les 4 condamnés à de la prison ferme. C'est moi qui prends la peine la plus lourde, 18 mois de prison, dont 12 fermes. Et aussi 3 ans d'interdiction de manifester sans délimitation de géographique. Arrive ce festival là, qui était vraiment un moment qui a fait du bien, où il y a eu énormément de solidarité, énormément de gens qui sont venus, qui se sont impliqués en faisant une cantine, en étant régisseur pour les groupes, etc. Donc ça a été vraiment un événement marquant, je pense, dans la vallée, qui a à la fois permis de récolter des sous pour toutes ces personnes dont je fais partie, parce que faire face à la justice, c'est difficile à plein de niveaux, mais notamment au niveau financier, hein, parce que des frais d'avocat, les peines, puisqu'on a été condamné aussi à verser aux policiers 1 000 euros chacun. Bref, ça a été une bonne bouffée d'air qui a reboosté. Et donc, on a été 2 à faire appel sur les 4, Tom et moi. Bah, là, il s'est passé quasiment 1 an et demi avant qu'on ait notre nouveau procès en appel à Grenoble. Donc, il y a eu lieu... je ne sais plus quel mois exactement, si c'était quoi, c'était avril, mai. Donc on passe à Grenoble, au tribunal, à huis clos, puisque c'était confinement ou juste sorti de confinement, enfin bref. Donc on s'est retrouvés seuls, pour le coup, face à la justice, avec nos avocats et avocates. Un procès qui, mine de rien, on a été assez satisfaits parce qu'on a pu bien s'exprimer. On a eu en face des policiers qui, globalement, ont été assez réglo, dans le sens où ils ont, par exemple, reconnu que... C'était possible qu'on n'ait pas pu les identifier comme policiers parce que leur brassard avait glissé et n'était plus visible, parce qu'ils s'étaient identifiés comme étant policiers, mais à un moment où nous, on n'était pas présents sur la scène. Voilà, ils ont reconnu des choses. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient été très corrects. Vraiment, je leur reconnais ça. On a pu s'expliquer. On a fait une analyse vidéo pour montrer aussi, puisque tout le dossier tient sur une vidéo d'une caméra de surveillance du parking. Et du coup, on a fait tout un travail là-dessus, que je pense qu'il a amené aussi des choses intéressantes. Mais bon, en face, on a eu une justice qui a été, pour le coup, qui a été surprenante. Par rapport au premier procès, on avait eu un procureur qui avait été vraiment très dur dans ses termes, qui avait parlé de bouffeurs de flics, etc. Enfin, ça a été waouh. Là, on a eu un procureur qui était plutôt dans une démarche de vouloir savoir des choses, de s'être intéressé au dossier, notamment, par exemple, c'est vrai que suite au premier procès, j'ai pu m'exprimer dans la presse, etc. Il avait lu, ce procureur, ce que j'avais dit, m'a questionné sur des choses. Donc, c'était plutôt intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un échange et j'ai pu m'expliquer sur des choses. Et par contre, on avait une juge qui était à charge, une juge qui n'a pas respecté le protocole. Par exemple, en fin de procès, en France, c'est toujours les prévenus qui ont la parole en dernier. Voilà, ça fait partie des règles. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu la parole en dernier. Un autre exemple de ce qu'on a pu vivre, c'est que donc, pendant le procès, il y avait la vidéo qui était omniprésente. Et donc, le greffier qui s'occupait de mettre en route la vidéo, de l'arrêter quand on lui disait, etc. Et on a eu un greffier qui s'est permis de faire des pauses de lui-même et de prendre la parole. Et parce qu'à un moment, sur un arrêt sur image, effectivement, il y avait le brassard qui apparaissait par en dessous sur une image. Et donc, qui s'est permis à ce moment-là de... Voilà, donc on a eu des choses quand même qui sont assez surprenantes en étant gentilles, quoi, qui sont en fait pas réglementaires du tout et qui montrent une prise de position de personnes qui sont là juste pour faire de l'administratif. Voilà, donc ce procès en appel a lieu au mois de mai. Et puis, on a le rendu le 4 juillet. Et là, encore à nouveau, quand même, un rendu très sévère, hein, puisque Tom garde la même peine. Si je ne me trompe pas, lui, il avait pris 12 mois de prison, dont 6 fermes. Moi, je passe à 18 mois de prison, dont 8 fermes, au lieu de 12. Et 3 ans d'interdiction de manifester. Mais par contre, ils ont un peu changé cette peine, dans le sens où, à la première peine, il n'y avait pas de délimitation géographique. Donc, c'était à la limite... pour le monde entier, ce qui n'était pas légal. Et là, on se retrouve avec une peine de 3 ans d'interdiction de manifester sur Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. On pouvait encore aller en appel. Et la question s'est vraiment posée, notamment cette peine complémentaire d'interdiction de manifester que je trouve et qu'on trouve avec mon avocat et Tom et son avocate tellement injuste, disproportionnée, antidémocratique. C'est tellement énorme. Ça restreint tellement notre liberté d'expression, notre liberté de manifester. Pour attaquer cette décision, il aurait fallu qu'on aille en cassation. Après cette cassation, qu'on aille à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui a impliqué du temps, des frais, puisqu'un avocat de cassation, c'est 5 000 euros minimum. Donc si on fait le compte, ça fait 10 000 si on va jusqu'à la Cour européenne, plus tous les frais annexes. Et il y en a un paquet, c'est vrai qu'avec les trajets, enfin, il y a tout un tas de frais. Et donc, on a pris la décision de ne pas se lancer là-dedans. Mais par contre, personnellement, ça me tient à cœur de parler de ça, parce qu'on parle de la répression policière, on parle des peines de prison, un peu moins déjà, mais par contre, cette interdiction de manifester, qui en fait est quelque chose qui a été massivement utilisé, puisque je rappelle que début du mouvement des Gilets jaunes, la ministre de la Justice envoie une circulaire aux procureurs en leur faisant tout un tas de préconisations, de garde à vue, de comparution immédiate, c'est-à-dire de comparution 48 heures après qu'on a été arrêté. Enfin bref, une procédure qui en fait ne permet pas de se préparer tranquillement à un procès, quoi. Enfin, et des recommandations de donner des peines complémentaires d'interdiction de manifester pouvant aller jusqu'à 3 ans. En fait, c'est suite à la mort de Rémi Fraisse, hein, qui est mort sur la Z du Testé en 2014, si je ne me trompe pas, tué par une grenade offensive tirée par les forces de l'ordre. Il y a une commission qui se forme, et qu'est-ce qu'ils font suite à cette commission ? Ils mettent en place des interdictions de manifester, mais temporaires, sur un après-midi. Et puis, crescendo, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui sont pris des interdictions de manifester sur 3 mois à Nantes. Et puis, voilà, on en est arrivé, là, aujourd'hui, à 3 ans d'interdiction de manifester sur des zones énormes. Enfin, je veux dire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, c'est énorme. Donc voilà, s'intéresser un peu à l'historique et puis voir un peu aussi les conséquences pour toutes ces personnes. Et il y en a un paquet, je suis en train de recenser tout ça. De voir un peu les conséquences sur nos vies, à la fois personnelles, familiales et militantes. Là, je suis en contact avec une personne, par exemple, dans le Tarn. Lui, c'est interdit d'aller sur une commune, la commune d'Albi, qui est le chef-lieu de là où il habite, pendant un an. Donc cette personne, en fait, pendant un an, elle ne pouvait pas passer par là. Donc tous ses déplacements, là-bas, c'est un peu particulier. C'est vrai, Albi, c'est vraiment central. Pour aller à plein d'endroits, il faut passer par là. Pour l'école, etc., pour ses enfants, ça a été problématique. Et aussi, il me racontait, ça l'a marqué et ça le marque encore, il a la nounou de sa fille, qui était un peu sa maman d'adoption, qui est décédée et qui a été au crématorium à Albi, bah, par exemple, il n'a pas pu y aller, quoi. Je vais parler de mon cas personnel, ces interdictions de manifester, en fait, c'est non seulement les manifestations telles qu'on peut les imaginer, qui ont lieu dans les grandes villes, un samedi après-midi, un défilé, etc., mais c'est aussi, je fais partie d'une chorale, c'est avec cette chorale, là, il n'y a pas longtemps, on a décidé d'aller chanter sur différents endroits, symboliquement, hein, par exemple, devant un pôle emploi, devant le café Lydre, par rapport à l'attaque qu'il y a eu là-bas sur ce café, l'attaque d'un groupe fasciste, a priori, qui a eu lieu là-bas, eh bien, c'est plus possible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un regroupement de personnes avec une revendication, c'est considéré comme manifestation, quel que soit le sujet, et donc, plus possible. Ma fille va à l'école à Saillant, et il y a des parents qui s'interrogent sur ce port du masque obligatoire à l'école, et qui essaient d'un petit peu de sensibiliser, etc. Et bien, il y avait un rassemblement devant l'école, à 100 mètres de chez moi, ben, je ne pouvais pas y être. Ça a des conséquences vraiment dans ma vie, et je fais différentes choses, mais entre autres, je suis reporter vidéaste, et donc je fais aussi pas mal de vidéos dans les mobilisations notamment, etc. Et j'en vis pour partie, enfin pas grand-chose, hein, je le reconnais, mais mine de rien, je bosse un peu avec des médias comme Reporter, CQFD, Bastamag, et ben, je ne peux plus exercer cette activité dans les manifestations et les regroupements. Ça muselle une partie de mon activité et ça a aussi financièrement, mine de rien, des conséquences sur, puisque je suis intermittent et en plus, avec la période actuelle de confinement, c'est sûr que ce n'est pas une période évidente pour faire des cachets et pour vivre de ça. Et donc, ça a des conséquences aussi professionnellement. Il y a des moments, ce n'est pas évident, mais globalement, moi, je ressors de tout ça, non seulement par la mobilisation qu'il y a eu, la solidarité, et aussi parce que ça touche des choses qui, pour moi, sont des limites en fait, à ne pas franchir, la liberté d'expression, nos libertés qui sont entamées jour après jour. Moi, voilà, ça me booste à continuer à agir à mon échelle et à essayer de mettre en place des solidarités, à mettre en place des alternatives, à les faire savoir. Et donc, il y a aussi des gens pour qui, bah, c'est, et c'est pas un hasard, hein, je pense que c'est aussi une volonté du gouvernement dans cette répression féroce, c'est aussi d'assommer, hein, de choquer, hein, la stratégie du choc et faire que bah, ces gens-là, du coup, bah, ils rentrent dans le rang, ils se montrent moins, ils sont, voilà, c'est pas évident. Donc, mais pour tous ces gens-là, et j'ai bien envie de porter, porter la voix et de faire savoir toutes ces choses qui se passent dans notre pays. Red Talon, copy, blue square one. Break. Part one. Alpha Foxtrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, en compagnie de Stéphane. Retour à l'entretien.
Je pense qu'il y a plein de débats et on le voit en ce moment. C'est vrai que dans des gens pour qui certains, c'est « Ah, il y en a marre des manifs », d'autres, c'est « Ah, mais il faut continuer les manifs, c'est hyper important », et pour qui, limite, c'est le plus important. Et ça, c'est un sujet qui traverse nos luttes, c'est, et pour moi qui mérite qu'on s'y interroge et qu'on évolue, c'est de pouvoir à la fois tolérer et plus que ça, encourager les multiples formes d'expression et d'organisation. En fait, ça peut être les organisations voilà, type manif, mais ça peut être aussi un atelier qui est fait dans un village sur l'autodéfense numérique. Ça peut être, pourquoi pas, une pétition, aller devant sa mairie et puis pour interpeller. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'agir. Différentes dans ses aspirations, dans la manière dont on met son corps au service de la lutte. Ça va jusqu'à ce qui se passe là et qui est un gros sujet de débat. Les gens un peu plus virulents qui vont plus loin et qui, par exemple, s'attaquent aux symboles du capitalisme que sont les banques, par exemple. Voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment des discussions et des débats de fond à avoir là-dessus. Et pour moi, au minimum, il faudrait qu'on arrive à se tolérer. Parce que pour moi, c'est la multitude des initiatives et des actions. Alors, avec certaines limites, hein, bien sûr. Je pense que moi, personnellement, s'attaquer physiquement à des personnes, c'est des choses que je trouve non seulement pas stratégiques, mais en plus dangereux. Il y a une multitude de manières de s'exprimer. On a un pouvoir en face qui est déjà fort, qui est en train de renforcer ces manières de réprimer, d'empêcher la mobilisation. Donc, nous, je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus, et sans être forcément acteur de toutes les mobilisations, mais qu'on se tolère et qu'on se renforce. Il y en a certains pour qui le mouvement des Gilets jaunes, c'est un échec. Alors effectivement, si on prend juste qu'est-ce qui a changé concrètement dans les lois ou dans les décisions gouvernementales, même s'il y a eu des petites choses, globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. C'est sûr que le pouvoir, il s'est bien gardé de faire évoluer les choses vers plus de démocratie, d'horizontalité, même au niveau du pouvoir d'achat, si on va sur ce terrain-là, au niveau de l'écologie aussi, on le voit bien encore là avec cette mascarade de conventions citoyennes sur le climat. Donc ça, c'est une chose, je pense qu'on peut moi en tout cas, je le reconnais, mais par contre, c'est tout ce que ça a créé à côté. C'est tous ces liens, ces personnes qui se sont connues, qui se revoient, qui se font confiance, qui se retrouvent. Si je prends l'exemple de Saillant, même si c'est il n'y a plus d'occupation du rond-point, mais n'empêche que il y a toujours des rendez-vous où on se voit, il y a un projet de maison du peuple, qui galère, mais qui est toujours dans les cartons. Il y a aussi de l'information qui est faite de temps en temps, des soirées. En ce moment, bien sûr, ça aussi, ça limite fortement les choses. Mais du coup, des choses qui sont organisées, et du coup, qui sont simplifiées, puisqu'on se connaît, et il y a tout un réseau de solidarité autour. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du festival À part ça, tout va bien. Il y a aussi, dans la vallée ici, une cantine qui s'est créée, une cantine populaire. Donc, l'idée, c'est de faire des repas pour des événements, des manifestations, des festivals, etc., en faisant de la récup, en faisant de la bonne bouffe, en essayant de se casser un peu la tête collectivement, et en permettant à prix libre donc d'avoir un peu de sous pour soutenir soit l'organisation même du festival, soit des caisses de lutte pour payer des avocats ou pour faire des impressions ou des choses comme ça. Et tout ça, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. Enfin, il y a 4 ans, ça n'existait pas. Il y a 4 ans, dans la vallée, il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas de chorale révolutionnaire, il n'y avait pas d'équipe juridique. Et tout ça, c'est des outils qui sont mis en place, quoi, qui se rôdent, et des gens qui se croisent et qui se recroisent et qui prennent plaisir à être ensemble et qui s'amusent, qui créent. Moi, je prends plaisir là-dedans, parce que c'est vrai que la lutte sera, alors je sais plus comment on dit l'expression exacte, mais pour moi, elle a beaucoup de sens, et sera joyeuse ou ne sera pas, enfin un truc du style, quoi, créative. Et moi, je porte beaucoup d'importance là-dessus, à pas avoir une lutte qui soit morose, un peu plombante. Mais ça pourrait, hein, c'est sûr que la situation actuelle, on pourrait se plomber, mais justement, développons toutes ces choses-là pour qu'on soit heureux de se retrouver, qu'on soit heureux de créer ensemble, heureux de surprendre, heureux de... Voilà, et il y a vraiment plein de choses à faire encore, même si, mine de rien, on restreint un peu nos possibilités, puisque même maintenant, aller chanter sur le marché de créer, ça devient compliqué. Mais voilà, ça se développe, il y a plein de choses qui sont là, et ça donne envie et foi en l'avenir, quoi. C'est ça aussi que moi, je sais que l'avenir, même s'il est, il pourrait paraître morose, en tout cas, il est aussi le théâtre de tellement de choses. Et donc là, ils nous ont fait une loi où il y a eu le débat sur interdiction de manifester, de filmer, pas filmer. Et effectivement, par exemple, le ministre Darmanin, à l'Assemblée nationale, lors du débat, a dit « Est-ce que les journalistes auront la possibilité de filmer ? Oui. Est-ce que les citoyens auront la possibilité de filmer ? Oui. Est-ce qu'ils auront la possibilité de diffuser ? Oui. » Et je pense que c'est une réalité, en fait. C'est que ça sera possible. Sauf que, avec cette nouvelle loi, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, en fait, le policier qu'on va filmer, il va avoir la possibilité de refuser ou d'estimer qu'on atteint son intégrité psychique. Et donc, il va avoir la possibilité de stopper au minimum le film et même plus d'arrêter la personne et de la mettre en garde à vue. Et puis après, comme ils l'ont dit, si c'est pas l'intégrité psychique c'était pas un point qui pouvait justifier l'intervention, ce sera le juge qui décidera. Sauf qu'en attendant d'aller au juge, il y aura la garde à vue, il y aura pourquoi pas une comparution immédiate, il y aura des avocats à payer, etc. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'en fait, et c'est notamment vrai pour les reporters indépendants, tous ceux qui n'ont pas forcément de carte de presse, c'est aussi l'autocensure, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne vont pas filmer par peur d'être arrêtés s'ils filment. Donc ça, c'est une deuxième conséquence qui sera possible avec cette loi. Et par rapport à ce qui se passe déjà actuellement, et moi j'en suis le témoin, c'est-à-dire que combien de fois quand j'ai filmé, je filmais des manifestations, des rassemblements, des mobilisations, on a des policiers ou des gendarmes qui viennent nous voir et qui nous disent « c'est interdit de filmer ». Donc moi, à force, j'avais le texte de loi dans mon sac à dos, donc quand on me disait ça et qu'on ne voulait rien savoir, même si je pense qu'ils le savent très bien, je sortais le texte et à partir de ce moment-là, on me laissait filmer. Ça allait même plus loin, puisque ça aussi, j'en suis le témoin. Moi, j'ai eu deux fois, une fois à Marseille, une fois à Grenoble, où j'ai filmé, on m'a attrapé mon matériel de mes mains et on m'a effacé ma carte. Donc ça, c'était avant la loi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucun élément pour justifier ça. Alors je me dis qu'avec cette nouvelle loi qui leur donne quelque part des outils pour pouvoir faire ça, mais ça va être complètement catastrophique sur l'information, sur le fait de pouvoir relater de ce qui se passe. Et il s'en passe des choses en manif, hein, je veux dire, de violence de la part des forces de l'ordre qui sont existantes, hein, qui pour moi sont pas juste des petits cas comme ça. Alors après, il y a la discussion de savoir si c'est structurel, jusqu'à quel point, mais en tout cas, pour moi, c'est pas des faits anodins. Moi, à quasiment toutes les manifestations, j'ai été témoin, j'ai filmé, j'ai fait des films sur ce qui s'est passé, alors sans parler de ce qui se passe par rapport aux migrants, où notamment, je crois qu'on en avait parlé lors de la première émission, j'étais pas mal aussi sur le camp de Calais au moment de l'expulsion, où là, c'était porte ouverte aux violences sur ces personnes. Je pense que vraiment, c'est un basculement, quoi, cette loi sécurité globale, et que c'est hyper important qu'on se mobilise et qu'on ne laisse pas passer ça, non seulement l'article 24 mais la suite. Et là, il y a une autre loi qui va arriver, ils ne nous lâchent pas, hein. C'est la loi sur le séparatisme, et où là aussi il y a énormément de questionnements sur toutes ces mesures qui vont être prises sous prétexte de lutter contre le terrorisme, mais qui vont réduire nos libertés en tant que citoyens, en tant que journalistes, en tant que témoins, en tant que manifestants. Et c'est pas anodin, quoi. Et c'est hier ou avant-hier, je lisais, je sais pas si tu connais Thinkerview, qui est chouette. Thinkerview, c'est sur le net, c'est des gens qui invitent des spécialistes, alors qui sont à la fois dans des ONG, des sociologues, des fois des politiques aussi, des espions. Enfin bref, c'est assez varié. C'est ce qui est chouette, c'est que c'est bien mis en forme et ça dure longtemps. Donc il y a 2h30 d'émission avec des questions plutôt intéressantes. Et c'est des gens qui sont plutôt... Alors, il y a un petit peu de discussion sur qui ils sont, parce qu'on ne les voit jamais à l'image, parce que il y a par exemple Bernard Squarcini, hein, qui a été interviewé. Donc, ce n'est pas rien d'avoir Bernard Squarcini pour qu'il vienne interviewer. Donc, il y a des petits... Sûrement que c'est des gens qui ont des liens avec les services secrets. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est des gens qui sont quand même un petit peu... qui ont des entrées dans différents services. Et ils ont tweeté il n'y a pas longtemps par rapport à ce qui se passait actuellement. En gros, il disait que clairement, ce qui se passait actuellement, c'était le pouvoir, avec la crise sociale qui va s'annoncer, le pouvoir prépare ça. Et que c'était que le pouvoir était pétrifié de peur et il finissait par « ça va être dantesque ». Et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, là, ce qui se passe. Et encore là, aujourd'hui, je voyais dans la région, mais À Valence, notamment, ils faisaient l'état des lieux des entreprises qui licencient, là, qui vont fermer. Ça va être une catastrophe sociale. Et c'est vrai que toutes ces personnes-là, à un moment, bah, je pense que ça va plus pouvoir continuer comme ça. Enfin, je veux dire, quand on commence à avoir des difficultés à vivre, à un moment, tous ces gens-là, a priori, ça va amener de l'agitation sociale. Et donc, pour moi, toutes ces lois-là, c'est des lois qui préparent tout ça et qui, pour empêcher qu'il y ait un mouvement populaire qui puisse émerger et qui puisse clairement remettre en cause ce pouvoir sourd, ce pouvoir, cette bande qui nous dirige et qui va toujours dans le même sens, quoi.
Voilà, c'est fini. Merci à Stéphane pour sa sincérité et ses convictions que l'on partage, bien évidemment. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand et Easton. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur la page mixcloud.com/surlaroute. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur notre facebook.com/associationresonance. Résonance. R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.